Bien, 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 nous allons essayer de nous connecter avec nos exploristes. Allô, allô ?
Allô, allô ?
Oui, ça y est,
bonsoir.
Oh là là, ça marche, enfin !
Ça y est !
On a eu peur, on a eu peur. Ça fait 15 jours qu'on ne se parle plus.
C'est ça, c'est vrai.
Donc là, il y a plein de choses à dire.
Ah, complètement.
Voilà.
Il y a eu plein de choses, oui, ça c'est sûr.
Ok, donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes une petite famille de 4 personnes, Vanessa, Anna, Sarah et Julien, et bien sûr la mascotte Charlie.
C'est ça.
C'est ça, j'ai bien retenu ma leçon. Bon, et bien la parole est à vous.
Voilà, ben on s'en était arrêté à Zadar,
si tu t'en souviens
bien.
Oui, oui.
Voilà, donc on avait, parce qu'Anna avait ses problèmes dentaires, donc avec cette... Bon, ça y est, maintenant, c'est bon, c'est réglé. On ne lui a pas arraché ni rien, mais ça va mieux.
D'accord.
Donc, du coup, on avait dû aller voir un dentiste pour voir un petit peu, et on s'en est arrêté où il fallait que le lendemain, ça, ou quelques jours après, ça redégonfle pour qu'elle puisse faire une radio, pour voir si ses dents poussaient bien et s'il fallait prévoir une opération.
Ok.
Finalement, c'est ce qui s'est passé. On est allé donc faire cette fameuse radio. Et on en a profité pour faire la même chose pour sa sœur, pour voir si tout est en ordre. Hein. Bah, finalement, plus de peur que de mal, donc tout pousse bien. C'est nickel.
Parfait.
C'est ok pour ça.
Et on pourra recommencer à manger des bonbons.
Mais non, elle n'aime pas trop ça, donc ça va bien. Mais pour manger autre chose, ouais. Donc du coup, on en a profité du coup en étant sur Zadar. C'est une très jolie ville, donc portuaire. Et pour visiter un peu la vieille ville qui est fortifiée, avec des petites ruelles, des pavés, donc Julien était sur sa poussette. Hein. Donc on l'a poussé un petit peu, c'était un petit peu pentu, mais ça allait, on a pu faire des choses, c'était sympathique. Il a pu mélanger ses béquilles avec justement le fauteuil roulant, donc ça lui permet de pouvoir mieux se déplacer. Quoi.
Il a pu faire un mix.
C'est ça, parce qu'il y a parfois des marches, tout n'est pas bien aménagé, donc le fait de pouvoir marcher quand même un petit peu avec des béquilles, ça aide beaucoup plus quoi, que s'il n'y avait qu'un fauteuil.
Mmh, tout à fait.
Voilà, donc c'est pour ça. Donc on s'est trouvé donc cette ville très charmante où on a trouvé aussi un espace assez sécure, quoi. C'est une ambiance vraiment sympathique. Et où on n'est pas regardé comme des bêtes curieuses. Enfin, on s'est senti bien en sécurité. Et donc, on a suivi le flot de la foule, parce qu'il y a une attraction vers le couchant. Tout le monde se réunit un petit peu sur les quais. Et sur les quais, donc, il y a un artiste qui a créé, il s'appelle l'orgue de la mer. Donc, c'est comme des tuyaux qui sont au niveau d'un escalier. Et avec le flux des vagues, ça fait une musique.
Ah oui, d'accord.
Alors, il y en a, ils trouvent ça très mélodieux, d'autres non. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à des grosses baleines. Enfin voilà, donc ça dépend peut-être si la mer est agitée ou non. Enfin voilà, c'est rigolo à voir, c'est quand même quelque chose, c'est une curiosité.
D'accord, donc ça vous a occupé un petit moment.
Ça, du coup on a fini sur la soirée parce qu'en fait il y a une autre attraction du même artiste. Il y a une sorte de grand cercle qui est fait avec des panneaux photovoltaïques, je pense. Et qui capte donc toute la lumière pendant toute la journée et qui est restitué le soir sous forme, on aurait dit, un gros dance floor. Quoi. C'est la fièvre du samedi soir, c'était nous. Hein. Donc ça s'illumine énormément le soir, c'est très très joli, ça s'appelle le salut au soleil. Et c'est vraiment l'attraction, hein, c'est vraiment sympathique. Et on a eu la chance ce soir-là d'avoir un saxophoniste qui était au deux, donc qui faisait des petits morceaux de musique et c'était magnifique. Donc tout le monde dansait, c'était vraiment bon enfant, et, vraiment très agréable quoi.
D'accord.
C'était vraiment sympathique. Oui, ouais, c'est des choses à voir. C'est ça nous faisait un petit air de fête. Donc,
c'est ça.
C'est pour ça. Après, on a quitté un petit peu la Zadar pour aller se trouver un petit spot de nuit. Hein. Ça, c'est souvent ce qu'on fait avec le camping-car. Et le lendemain, on a voulu, comme les filles, en fait, on arrivait, je crois que c'était fin octobre, oui. Elle voulait passer Halloween donc à Zadar, parce que on trouvait que c'était vraiment tranquille comme ville, hein. Elle ne se sentait pas menacée par quiconque. Donc on a décidé de partir dans un petit camping sur l'île de Pagues, qui est vraiment à côté, qui est un petit peu au nord de Zadar. Donc on s'est posé dans un camping là, mais les pieds vraiment, on va dire, dans l'eau. Il y avait 2 mètres à faire et Julien a profité pour barboter.
D'accord. Il y a pire, quoi.
Oui, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout en fin de saison, c'est vraiment une misère. Hein. C'est de l'ordre pour un 5 étoiles. Bon, après, un 5 étoiles dans leur pays, c'est pas tout à fait la même définition que dans notre. Hein. Pour un camping comme ça, vraiment très, très grand, c'est à peu près de l'ordre de 20 euros la nuit, ce qui est, je crois même pas, ou 20,
Ouais,
ouais, 20 euros, 15-20 euros la nuit. Donc c'est
oui,
bien, quoi.
c'est plus qu'abordable.
Complètement, c'est pour ça. Donc là, c'est quand même très agréable et c'était vraiment sympa. Donc il y avait quand même pas mal de voyageurs qui en ont profité, puisque bah, là-bas aussi, c'était et aussi des locaux, c'était les vacances scolaires. Donc on a pu voir tout le monde qui venait passer les petites vacances, puisqu'il y a dans ce camping pas mal de mobil-home aussi. Donc c'est sympa, le coin est très sympa. Du coup, après, on a décidé de migrer un petit peu, hein. De migrer et de changer un petit peu de secteur, parce que les filles ont fait leur petit truc d'Halloween. On est reparti sur Zadar. Bon, une petite soirée sympathique, elles sont un petit peu déguisées, elles ont un petit peu vu les festivités qu'il y avait dans les rues, les choses comme ça, et une soirée tranquille, sans trop.
Et là-bas, c'est suivi aussi Halloween
Pas beaucoup,
ou
en
pas
fait,
beaucoup.
elles ont trouvé ça, il y en avait quelques-uns, mais c'était pas énorme, quoi, c'est mitigé.
D'accord, ils ont pas succombé
Mitigé,
encore.
c'est pas. Je pense que pour les enfants, peut-être davantage, quoi. Donc, c'est pas le truc, le phare. Il n'y avait pas trop d'animation faite sur le lundi soir. Peut-être le week-end. Avant, mais je ne sais pas. Donc, quoi qu'il en soit, le lundi soir, vraiment, Halloween, c'était mitigé.
D'accord.
Et du coup, bah, on a décidé après, on regarde un petit peu les coins, parce que nous, on n'est pas trop forcément les coins ultra touristiques. On voulait aller voir une source qui est vraiment dans les terres. Et donc là, c'est vraiment particulier, ça ressemble à vraiment un gros œil. Et là, je vais donner la parole à Anna.
Très bien, c'est au tour de Anna de
Allô,
venir.
allô?
Allô, salut.
Salut, salut.
Alors, on t'écoute.
ça marche. Bah, du coup, vous parlez de Sétina. Donc, la source de Sétina, c'est une attraction qui est recherchée par beaucoup d'Instagrammeurs, beaucoup de touristes. C'est-à-dire que quand on recherche ce genre de nom sur Internet, on tombe tous sur la même photo, un drone au-dessus de la source où c'est super joli, l'eau est bleutée, on voit que le trou est extrêmement profond, une centaine de kilomètres, de kilomètres, de mètres, pardon, j'aime bien exagérer. Mais du coup, cette source-là, en fait, il y a énormément de gens qui s'amusaient à se baigner dedans. Et le problème, c'est que c'est une source qui est buvable. En fait, l'eau, elle est récupérée pour les habitations autour. Et donc, en fait, se baigner dedans,
Oui,
c'est
c'est
pas
pas le
super
top.
poli, c'est pas génial. Non, franchement, non. Du coup, les gens dans le coin, je pense qu'ils en ont eu marre parce que quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte qu'ils avaient implanté plusieurs panneaux pour ne pas se baigner, c'était interdit. Donc, ils avaient mis des caméras, il y avait la totale. Donc, on peut plus se baigner, on peut plus barboter dedans. On peut juste regarder les poissons. Et franchement, déjà, c'est super joli. Donc, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre. Et de ce côté-là, ce qui était intéressant, c'est qu'on est parti un peu plus loin, pas trop loin de la source, mais on est parti se garer dans un coin un peu plus sauvage. Et en fait, en plein milieu de la nuit, il y a d'autres voyageurs qui s'incrustent. Et on se dit, ah mince, c'est peut-être des habitants, on avait peur de. Enfin, on ne sait pas si ça dérange ou quoi, quoi. C'est du
Bien sûr.
sauvage, donc c'est pas toujours bien vu. Et au final, on se rend compte que juste à côté de nous, bah, c'est des voyageurs français.
Ah, d'accord.
Ouais! Ça faisait bizarre parce que se perdre en Croatie et rencontrer des Français, bah, on n'en croise pas dans tous les chemins. Et le pire, c'est qu'un peu plus tard dans la soirée, le lendemain, et ben, d'autres Français arrivent. Donc on se retrouve 3 véhicules français et on fait une soirée française en Croatie.
Original.
Ouais, c'est ça, c'était génial. Et il y en avait un des gars d'ailleurs qui s'amusait à pêcher dans la rivière juste à côté. Donc une rivière qui suit le cours d'eau jusqu'à la source. Et donc là, il a juste posé sa canne à pêche dedans, qui a ressorti le poisson direct et qui avait une truite pour nous. Et donc là, on s'est fait cuire une truite avec un petit feu et on a mangé une truite du coin. Comme ça, c'était génial comme expérience. Se retrouver juste entre petits voyageurs et essayer de, à la sauvage, à manger à la sauvage. On n'a pas mangé que ça, hein, parce que c'était pas assez pour nous tous, mais c'était quand même
C'était
super bon à
sympa,
manger. Ouais, c'était cool. Et un truc à savoir aussi, c'est que en Croatie, les animaux en groupe n'ont pas de clôture. C'est-à-dire que j'ai croisé un troupeau d'ânes, mais il n'y avait pas de clôture qui pouvait nous séparer. C'est-à-dire qu'ils sont venus me voir sur la route avec Charlie. Sauf que c'est pas un ou deux ânes, c'est qu'il y en avait 15. Donc au début, ils sont mignons, ils étaient juste curieux, ils voulaient voir à quoi ressemblait le chien. Et je me dis qu'ils ont dû le comparer à des chiens de berger. Donc à tout moment, ils vont se dire ah, ils vont peut-être m'indiquer où aller ou quoi. Sauf qu'ils commençaient à charger Charlie. Moi, je voyais un remake du Roi Lion. Je me suis dit, Mufasa, il va mourir. Je l'ai pas trop senti, l'histoire. En plus, là, il y a tous les ânes, ils ont commencé à. Comment dire, à s'emballer autour de moi. Je me suis dit, je vais finir écrasé, c'est quoi cette vie? Je me suis remise en question. Et au final, Charlie, il a remarqué que j'étais pas trop rassurée. Il a regardé les ânes, et là, il les a fait fuir. Il a couru, et les ânes, ils sont partis, je ne sais pas où. Je suis vraiment désolée pour ce berger, à ce gars qui avait ses ânes, qui était dans le coin, je sais pas où ils sont. Je pense qu'ils sont dans le coin,
il a dû les retrouver.
Oui, je pense aussi, mais bon, c'est comme expérience, juste à faire attention qu'on peut rapidement croiser des... Et même, c'est pas rare, jusqu'au Monténégro, on voit même des vaches dans les rues, dans la ville. Donc, les animaux, faut les regarder de près.
C'est ça.
Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire sur cette petite source et sur ce petit endroit qui était vraiment super cool. On a passé une petite soirée entre voyageurs, franchement, c'était sympa. Et donc, pour la suite, je vais le passer à maman. Voilà, pour qu'elle puisse parler de Split, il me semble. Voilà.
Ça y est, c'est re à toi.
C'est mon re, moi. Donc, la petite anecdote des ânes, oui. Donc, pour en venir, donc on s'est dirigé après vers Split, donc vers le sud, puisqu'on a rebifurqué, puisqu'on était dans le nord-est. À Cetina, donc au sud, mais on est arrivé un peu tard et le temps de trouver vraiment une place, c'était un peu compliqué. On a tourné, viré. Et Split, c'est vraiment, il faut savoir que c'est la deuxième ville la plus grande de Croatie. Donc beaucoup de circulation, peu de choses qui sont faites pour les camping-cars, surtout hors saison. Donc on a dû bifurquer dans les montagnes au-dessus, quoi. Et en pleine nuit, ça n'a pas été simple de trouver un emplacement. Et avec des petites routes très, très difficiles, sinueuses. Et la montagne en camping-car avec des routes étroites, c'est compliqué, quoi. Non, mais j'ai dû faire demi-tour dans un petit village et c'était vraiment très étroit. Donc, heureusement, là, les filles, elles sortent pour m'indiquer un peu partout. Hein. Donc, on serre les fesses.
Bon, mais t'as l'habitude, tu gères maintenant.
Ah ouais, mais ça fait quand même, je me dis à chaque fois, ça, c'est pas possible le soir, j'aimerais avoir des trucs un peu plus simples. Mais bon, à moi, on s'est trouvé un endroit donc, sur les hauteurs et on a une vue splendide de Split. C'était vraiment de toute beauté. Le problème, c'est qu'on a dû essuyer une tempête assez importante et le lendemain, il prévoyait des vents jusqu'à 90 km/h. Et je ne me voyais pas redescendre par ces routes sinueuses et un peu montagneuses avec une capucine parce que vu la hauteur... Ça faisait un peu peur, quoi. Donc, on a dû quitter les lieux et passer plus vers l'intérieur des terres parce que c'était. J'avais un peu peur, quand même.
Peut-être trop risqué.
C'est ça. Moi, j'aime pas trop prendre de risques, quand même. On est un peu fou parfois, mais quand même.
Il y a des limites.
c'est un peu ça parce que voilà. Donc, on a dit finalement, tant pis, on s'en va vers le lendemain, vers Dubrovnik et compagnie, pour quitter un petit peu la Croatie. Donc on s'est dirigé vers un autre spot. C'est un truc qui me tenait à cœur aussi, je voulais aller voir ça. On avait découvert qu'il y avait aménagé des anciennes bases sous-marines sur la côte. Bon là, c'était ils en s'en servent maintenant pour stocker les bateaux. Mais on voulait voir ça, parce que c'est assez extraordinaire de pouvoir rentrer dans ces lieux comme ça, c'est ouf. Oui. On se dit qu'il y avait des sous-marins quand même là.
Et puis qui devaient être hyper protégés, tu ne pouvais pas rentrer comme ça, sûrement.
Ah ben c'est ça, maintenant c'est un peu plus ouvert, le petit village d'ailleurs, il y a beaucoup de constructions pour, je pense, ça va être une future station balnéaire, quelque chose, donc ça se développe. Là, avant d'y rentrer d'ailleurs, on passe au milieu des vergers, enfin vraiment des oliviers, il y avait partout, on tendait la main, on pouvait goûter les olives, d'ailleurs j'ai goûté, c'est vraiment pas bon.
Ah oui, il faut les préparer un peu.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est meilleur préparé, je l'avoue, c'était pas bon, mais bon, c'était un petit truc. Donc on a pu bien observer ce petit coin, c'est vraiment sympathique. Et après, bon, on a quitté les lieux pour se diriger donc après sur la fin donc de la Croatie et pour passer il faut savoir que je sais pas si tu sais ça, c'est avant Dubrovnik il y a un bout de Bosnie qui partage la Croatie.
Non, je le savais pas, mais comment on prépare un peu l'émission avant.
Voilà.
J'ai vu ton petit texte, oui, ça, c'est assez curieux.
Voilà, donc il y a un petit passage. Et avant, il fallait passer la frontière et à chaque fois, il y avait la douane. Et là, du coup, la Croatie a décidé de faire un pont sur une presqu'île qui est juste en face. Donc maintenant, on peut passer ce fameux pont et ça évite de passer la douane.
La douane, bien détourné. Voilà.
C'est ça, du coup, donc on reste toujours en Croatie, ça évite la paperasse, quoi. Et parce que comme c'est pas l'espace Schengen, la Bosnie c'est plus la contraignant, je pense. Mmh. Après les gens ils passaient, ils devaient avoir l'habitude, hein, parce que ça doit faire quoi, peut-être même pas 15 bornes, hein, le passage 15-20 bornes et pour retourner en Croatie.
Oui, c'est pas là.
Ah non, c'est une petite langue de terre, quoi, hein, qu'ils ont pour dire qu'ils ont un accès à la mer, quoi, on va dire.
Voilà, oui, c'est ça.
C'est juste ça. Donc on est passé sur cette île et assez fameuse d'ailleurs pour c'est il y a un petit village qui s'appelle Ton, on n'a pas pu s'y arrêter, ce qui est dommage, hein, mais on ne peut pas tout visiter parfois. Donc il y a beaucoup de ils appellent ça la muraille de Chine de l'Europe, tellement c'est on voit toutes les collines où il y a des sortes de forteresses, pas de forteresses, des fortifications, un peu comme une muraille. Mm-hmm. Donc ça c'est à voir et c'est connu pour le sel aussi, ce coin-là. Et les huîtres, des huîtres apparemment super bonnes, mais bon, je suis pas. Déjà à la base, j'aime pas les huîtres alors.
Ah, oui.
Mais ceux qui connaissent ces coins-là, apparemment, c'est fameux. Donc là, on est passé par cette presqu'île. Et sur la route aussi, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a bon nombre de personnes qui vendent leur production. Il y a des petits. Si tu fais un jardin potager et que tu en as un peu trop, il y a plein de gens. Qui font ça et qui vendent leur surplus de production pour se faire, je pense, un peu d'argent, quoi. Donc tout le long de la route, on voyait des orangers, des vendeurs d'oranges, de choux, beaucoup de choux ici.
Ah, d'accord.
Oui, donc donc c'était amusant. Donc tout le long, on a eu ça. Et oui, c'est vrai qu'on a passé sur Dubrovnik et compagnie, parce que Dubrovnik, on ne s'est pas arrêté, puis c'est trop pentu, hein, et trop de touristes aussi, parce que Julien. Je crois que comme il n'est pas motorisé, c'est compliqué, quoi.
Oui, ça sûrement.
On n'a pas de fauteuil motorisé, c'est parfois un peu dur, donc on doit faire certains choix. Donc le choix, nous, ça a été d'aller jusqu'au bout de cette presqu'île et pour atterrir pendant 2 jours, on s'est fait plaisir sur. Bon, après, c'est notre truc à nous, hein, mais c'est une ancienne base militaire. Donc on a pu visiter une ancienne base militaire avec tout ce qui reste un peu de bâtiments, de petits souterrains, pas souterrains, mais enfin voilà, pas mal de bâtiments, des trucs, des vestiges, quoi. Et notamment, il y avait un ancien fort aussi qu'on a pu visiter. Donc c'était assez fabuleux de voir ça. Nous, ça nous a vraiment émerveillés.
Oui, puis là, c'est Julien peut le faire, ça. Oui, c'est assez...
Alors, il y a une partie qu'il peut faire. Le reste, ouais. Nous, on le fait avec la GoPro et après, il voit les films, en fait.
Et après, voilà, il regarde en différé.
Voilà. En fait, il peut faire que ça parce qu'il y avait une partie où il pouvait avancer avec ses béquilles parce qu'il marche un peu. Ben, on va dire c'est le centre ou autour, mais le reste, non, il peut pas, quoi. Mm-hmm. Comme il y avait sur la presqu'île, il y a des sortes de petites routes qui desservaient des petites maisons, quoi, un peu partout. Et c'est pour ça.
Ok, d'accord. Bon, après, il en profite indirectement.
C'est complètement. Mmh. Oui, il y a des choses, on ne peut pas. Donc, c'est nous, c'est vrai, on fait un peu les égoïstes, un peu, mais mais il aime bien quand même. Et c'est un partage après. Tout le monde va voir son petit coin. Et après, c'est un partage. Tiens, j'ai vu ça. Et c'est sympa aussi, quoi.
Oui, tout à fait. Mmh.
Voilà, donc après, ce petit moment... on est parti donc sur le Monténégro et là je vais passer l'appareil pour Sarah.
Bonsoir.
Bonsoir Sarah.
Alors pour le Monténégro, on est arrivé vers la boule du Kotor, donc c'est quand même un endroit assez incroyable parce que c'est tout ce qui est dans le côté portuaire et c'est vraiment le truc du Monténégro, la plus grande, on va dire, une des villes les plus jolies, hein, dans tout ce qui est dans le tourisme. Mais nous, on n'y a pas trop prêté attention parce que quand on a vu déjà de loin, donc déjà c'est très montagneux, donc pour Julien c'est très compliqué. Qui dit ville dit pas très compliqué en termes d'accès pour le camping-car.
Et en plus,
des gros paquebots cachaient vraiment toute la vue, mais vraiment, c'était énorme. Donc on s'est dit, on va aller sur l'autre à côté, le petit village, il est mignon. Donc on a fait ça, mais on s'est rendu compte que l'eau, Au Monténégro, vers les côtes, il n'y en a pas beaucoup parce que oui, évidemment, on a besoin d'aller chercher de l'eau parce que bah, pour boire ou autre, c'est un peu essentiel. Donc bah, on se dirige vers bah, les montagnes et donc on arrive à... Ah non, désolé, à trouver de l'eau. Mais là, fallait quand même qu'on trouve un endroit... désolé, fallait qu'on trouve un endroit où dormir. Et... Donc, premier spot qu'on essaie de trouver vers un barrage.
Il y en a qui t'embêtent, je pense.
Oui. Oh mon Dieu, Anna, elle va dehors, là. En fait, on voulait aller voir près d'un barrage pour avoir un petit spot tout tranquille et tout. Mais quand on y va, on se rend compte qu'il y a donc des gens qui nous regardent, donc certainement des gens du Monténégro. Mmh. Pas très bon accueil parce qu'ils nous regardent presque à nous tuer et à faire non, vous allez pas venir ici. Donc on s'est dit,
ah oui.
Le spot, c'est non. franchement, donc on va ailleurs. Et là, le problème, c'est aller chercher un spot au Monténégro alors que ce n'est pas c'est pas légal en fait de chercher des spots nature dans... mm-hmm. Sauf l'hiver parce que bah, du coup, il y a moins de camping, bizarrement. Donc on essaie de se trouver ça, on va dans les montagnes encore plus, et on va à Ostrog, le monastère qui est ancré dans les montagnes. Et donc on prend un chemin très sinueux, qui d'ailleurs, entre bah, pour le chemin, on récupère un monténégrin alcoolique, on va dire. il demandait, donc bon, on l'a fait venir dans le camping-car. Après, même pas un kilomètre, il a demandé à descendre vers un bar. Donc bon, bah, voilà, ça s'est fait. On continue à monter, il y a une voiture qui nous arrête, on se dit, eh mince, encore, est-ce qu'ils vont nous dire par rapport à notre camping-car qui fait quand même 7 mètres que la route n'est pas faisable parce que elle était sinueuse, la route. Et non, c'était un gentil petit Papa Noël, on va dire, tout mignon, parce que franchement, la tête qu'il avait était adorable. Il nous fait, oh, si vous voulez, il y a un camping par ici, venez me voir, c'est cool. Bon, ben au moins, on a un camping au cas où. Donc nous, on continue notre périple vers cette route sinueuse pour arriver sur un parking qui nous mène vraiment à côté du monastère. Donc par exemple, à pied, c'est on va dire 40 minutes à pied. Ça va. Ça va. Mais bon, en fait, c'est 40 minutes, c'est parce que le chemin est vraiment très très pentu, quoi. C'est juste ça. S'il était tellement plat, c'est sûr que ça serait même à peine 15 minutes. Donc voilà, on arrive sur ce Ostrog, donc je crois qu'on passe deux nuits. Et nous, avec Anna, première journée, on va se faire une petite randonnée pour aller voir ce monastère. Ça, c'est incroyable d'entendre, le matin, on entend des chants de moines, des pop, étant donné que c'est tout ce qui est orthodoxe ici.
Oui, c'est orthodoxe.
Et, ouais. Et arriver donc là-haut, déjà c'est quand même un endroit qui est très très beau et très silencieux parce qu'il n'y a vraiment personne. C'est pas du tout un endroit touristique, c'est vraiment un endroit de prière, vraiment c'est assez incroyable pour ça. Et donc Anna fait son petit tour, vu que je dois tenir le chien vu qu'on l'avait amené, parce que ben, c'était interdit au chien, c'est normal. Et après, moi je suis arrivée, sauf que au moment où je fais la visite, quelque chose de vraiment, ça m'a fait super peur, c'est que je suis entrée, je trouvais ça quand même assez merveilleux, tu entends une sorte de grotte où il y a plein de gens qui passent, mais je comprends pas d'où je vais aller. Et là en fait je me rends compte que je peux pas faire marche arrière parce que j'arrive devant un pop qui montre la croix à une personne, que la personne embrasse la croix et qui après embrasse un tableau. Sachant, je vais te détailler la pièce, c'est que donc on est dans une pièce qui est très très petite, vraiment. Et donc donc il y a vraiment une seule porte. Devant moi, il y a une sorte de cercueil, une chaise juste à côté, donc là où il y a le pop qui est assis, qui fait à chaque fois embrasser la personne la croix. Et c'est un tour de rôle comme ça. Et donc moi je me dis, qu'est-ce que je dois faire là? Où suis-je? Où me suis trouvée? Donc ben, me voilà en train d'embrasser une croix et après d'embrasser un tableau devant un cercueil. J'avoue que ça m'a fait peur quand je me suis rendu compte que c'était les reliques d'un moine, d'un saint Basile, et qui normalement met tout ce qui est des miracles là-dedans. Donc bon, ben, en espérant que ça me donne de la chance.
Voilà.
Donc j'avoue, ça c'était le côté qui m'avait fait peur et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais bon, voilà, ça c'était sympa au Strog, hein. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a pu rencontrer des Suisses qui ont pris notre place quand on est parti et qui étaient vraiment très chaleureux, qu'on leur a expliqué ça et que à faire attention, ne soyez pas autant perdus que nous.
Voilà.
Donc voilà, je passe la main du coup à papa pour qu'il nous raconte certaines choses par rapport au camping-car.
Le camping-car, oui, le fameux camping-car.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Alors,
nous, ce qui nous est arrivé, pendant que les filles étaient à Ostrog, je suis moi resté au camping-car parce qu'il y avait un problème mécanique. En fait, sur les camping-cars, certains, il y a un chauffage cellule qu'on appelle, qui est branché sur le liquide de refroidissement du moteur. Et j'avais une fuite de liquide de refroidissement qui tombait à l'intérieur du camping-car. C'est-à-dire que si on faisait rien, non seulement ça allait me pourrir la cellule, mais en plus, ça vidait le oui. moteur au fur et à mesure. Donc, on descend, Vanessa trouve un petit resto, donc on rentre les coordonnées. Mais ce qui est terrible là-bas, au Monténégro, c'est que tu rentres les coordonnées d'un resto, tu prends la route principale et ils te disent « t'es arrivé ». Mais quand tu regardes à droite où il y a le resto, tu te rends compte qu'il y a 150 mètres de dénivelé et il faut que tu trouves la route pour y aller. Parce que, en fait, il faut sauter directement par la glissière de sécurité. Donc là, on est couragé, mais pas à ce point-là. Donc on arrive à trouver cette route qui est au demeurant une route de Monténégro, étroite. C'est-à-dire en clair le camping-car, heureusement qu'il est un peu mascagné le nôtre, donc une rayure de plus, une rayure de moins, ça ne va pas lui faire bien mal. Mais on a réussi à arriver, Vanessa a réussi à nous amener jusqu'à ce petit resto qui s'appelle donc une Konoba, donc c'est des auberges du coin. Et donc on s'est arrêté là, au bord de l'eau, et là on a mangé, donc on s'est arrêté parce qu'on était plus que crevés. On a mangé là, on verra la mécanique plus tard. Mmh. Et puis comme le contact était bien passé avec les propriétaires, qui étaient super sympas, j'ai demandé, comme ils parlaient anglais, s'ils ne connaissaient pas un garagiste. Il dit OK. Donc il commence à appeler un garagiste. Le propriétaire, il me demande d'envoyer une photo au garagiste. Donc là, on est toujours au restaurant. Et il me dit, son ami garagiste, il viendra dans la soirée réparer le camping-car sur place.
D'accord.
Donc on bouge pas. Alors, super, donc on attend, donc on a été super bien reçus par la Konoba, l'auberge, et ils nous ont ramené, même pour patienter, du café, des petits gâteaux, vraiment des amours. Tu te dis, mais ils sont d'une gentillesse, et ils ne demandaient rien en plus, c'est-à-dire que c'était gratuit.
Oui, c'était, oui.
C'était cadeau, quoi. Alors, le garagiste est arrivé après son boulot vers 19h. Donc, ça faisait déjà, grosso modo, 3h qu'il faisait nuit. Parce qu'il faut savoir que là où nous sommes, au Monténégro, la nuit tombe à 4h30, là, en ce moment.
Ah oui, effectivement.
Ah oui. C'est vraiment différent de chez nous. Et parce qu'ils sont à la même heure que nous, mais ils sont largement plus à l'est. Et donc, c'est normal qu'il y ait un tel décalage. Le gars arrive... Et puis, il fait l'opération, il voit qu'il manque une pièce, il retourne à son garage qui est à 15 bornes avec les routes qu'il y a, je ne te raconte pas le temps, il revient, il me fait l'opération, donc il me sort, entre guillemets, l'appareil, c'est ce que j'avais prévu, et il me met un embout pour maintenir les tuyaux pour faire un circuit fermé, et donc là, plus de fuite. Et pour ça, il me demande, mais une somme ridicule. Je dis ridicule, c'est 20 euros. Il me dit, c'est pour l'essence. Mais j'ai dit, non, même moi, j'ai dit, on paye, et j'étais tellement content qu'il m'ait dépanné sur place, comme on avait amené quelques bouteilles au cas où ça peut servir de par chez nous, je lui ai offert une bouteille. Oh, le gars, il était tellement choqué. Finalement, on a mangé ensemble, au petit restaurant, on a discuté, et le contact est tellement bien passé qu'il m'a dit, écoutez, comme il nous appréciait, il a décidé, le radiateur, de le récupérer et d'essayer de le réparer. Il faut savoir qu'à titre d'information, c'est des trucs en plastique. En France, quand c'est cassé, c'est jeté.
On
le remplace par un autre. Et donc, j'ai regardé le prix du neuf. On est plus près des 400-450 euros juste la pièce, sans le montage, plutôt que de la réparation. Donc là-dessus, il le prend. Et puis nous, donc, on passe la nuit sur place. Et le lendemain, donc, on s'en va. Et on décide, parce que comme il y en avait pour un petit moment, on dit, on va patienter dans le Monténégro le temps que la réparation se fasse. Et donc là, nous voilà, on fait la route et on se retrouve dans les gorges de... De Tara, les gorges de Tara, donc qui est le deuxième plus grand canyon du monde après le Grand Canyon des États-Unis. Donc gorge très profonde. Et là, on se trouve un petit camping tranquille. Et ce petit camping, on arrive. Et ce qui était vachement sympa, c'est que y avait du rafting, il y avait de la zipeline, c'est-à-dire de la tyrolienne. Donc le soir, bon, on passe la nuit parce qu'on était un peu crevé par tout ce qui s'était passé par la route.
Ben oui.
Et là, j'allais passer une fille, mais elles sont tellement explosées de rire que il va falloir que je continue un petit peu. Et quand elles seront calmes. Quand elles seront calmées, elles reviendront. Donc moi, ce que je vais dire en attendant, je ne pouvais pas bouger au niveau du camping, c'est que c'était un amour. Le propriétaire, sérieux, déjà, comme il voyait mes filles, une des miséreuses qui essayait de capter de la connexion sur le Wi-Fi, parce que pour essayer de contacter leurs amis, etc., il a eu tellement pitié d'elles qu'il est venu avec le boîtier de Wi-Fi. Il nous l'a apporté dans le camping-car.
Ah oui, cool.
Carrément. Donc, il nous l'a apporté dans le camping-car. Donc là, on a eu 4 jours, parce qu'on y restait 4 jours. On a eu 4 jours de Wi-Fi non-stop au niveau du camping-car. Donc, pour remercier, on est allé au restaurant, forcément. Mmh. Et là, le restaurant... Alors, il faut reconnaître une chose. Bon, tu sais que je suis un petit peu gourmand.
Il paraît.
Et voilà, là-bas, il faut reconnaître que la nourriture, alors c'est très copieux, mais alors c'est délicieux. J'ai pris le plat, la spécialité du coin. Et la spécialité du coin, en fait, c'est du mouton qui est en sorte de pot-au-feu. Et il te porte ça à l'assiette, il y en a 1 kg à peu près. Bon, évidemment, il y a des os, mais ce n'est pas 1 kg de barbac. Mmh. Mais franchement, je n'ai jamais mangé du mouton aussi bon.
D'accord.
C'était divin. Je n'en avais jamais mangé. Et c'était tellement bon que la deuxième fois qu'on est allé au restaurant, j'ai repris la même assiette. Mais au départ, j'avais un peu peur, j'avais pris que la moitié de l'assiette, c'est-à-dire 500 grammes. Et puis finalement, je me suis dit, effectivement, avec les os, on peut prendre le kilo, il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai qu'après le kilo, automatiquement, on est calé, il n'y a pas besoin de prendre un dessert, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, maintenant que ça s'est un peu calmé, je vais pouvoir passer les filles parce qu'elles ont fait une activité dans ce camping qui était fort intéressante.
D'accord, alors si elles y arrivent à parler.
Oui, non, il n'y aura aucun problème pour parler. Problème. Donc... quand on arrive, déjà, au camping, on avait demandé est-ce que c'était possible de faire du rafting. Donc, la personne nous avait dit « Oh, ok, pas de problème, à 10h. » D'accord, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre ou autre. Et donc, le lendemain, Anna, elle va promener le chien et après, elle se dit « Je vais le passer, comme ça sera peut-être mieux dit, voilà. »
Oui. Vous regardez pas, il faut pas vous regarder. Vous tournez le dos. Ça y est.
Oui.
On les a perdus.
Pardon.
En fait, Sarah n'a pas précisé une chose, c'est que quand je suis partie demander des informations, je suis tombée sur un monsieur qui m'a fait « Ah, aucun problème à 10h », et là il me dit « Drink ». Quoi ? C'était 9h du matin, j'ai rien mangé. Oui, mais c'est pour dire, j'ai rien mangé, j'y vais, je commence à demander des infos, et du coup, le gars, il me propose de boire. Je lui dis, boire quoi, un chocolat, un thé? Et là, il me sort un petit verre de bienvenue, c'est de l'eau de vie.
De l'eau de vie.
De l'eau de vie dans un shot. Le gars, il me dit, ouais, faut le boire d'un coup. Quoi? J'ai cru mal entendre. Du coup, dès le matin, j'ai dû boire un truc, parce que sinon, c'est mal poli, c'est mal vu.
Et oui, j'ai refusé.
Bah oui, un petit peu. Du coup, le gars, il s'attendait à que je tousse. Bon, ça va, ça m'a juste brûlé le corps en entier, mais ça allait. Et du coup, je suis partie voir les parents en disant oh, « ça va pas, là. Là, faut que je mange un truc, les gars. C'est pas normal. » Parce que là, la tête, elle tourne très, très vite. Et quand on revient pour payer et commencer à faire l'activité avec Sarah, il nous en donne un deuxième. Enfin, du coup, pour Sarah, c'est le premier, mais moi, c'est mon deuxième. Je dis, non, pas encore. Mais du coup, c'est encore mal vu si je refuse. Bon, allez, les 3-4 autres, ils m'ont proposé, j'ai dit non, parce que là, au bout d'un moment, je me suis dit non, s'il vous plaît. J'ai demandé de l'eau. Et du coup, ce qui se passe par la suite, c'est que on décide, du coup, de rejoindre l'activité. On y va tous ensemble. Et on va dans un 4x4, justement. Dans un 4x4, et en fait, on se rend compte que l'activité, normalement, qui se fait en groupe de 10 personnes, voire 15, ou 5 minimum, je suppose. En fait, on est juste deux avec le gars. Du coup, on est passé en mode rafting VIP. C'était super drôle. Et le 4x4, il roulait partout dans les montagnes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est la première fois que je montais dans un 4x4. Le gars, il savait exactement ce qu'il faisait. Mais la montagne, bon, bah, elle va dans tous les sens et le gars va vite. Donc, forcément, c'est surprenant au début, un peu, surtout qu'il n'y a pas de ceinture. Les sièges, ils ressemblent à rien. Enfin, on n'est pas trop rassuré non plus. Donc, une fois qu'on arrive là-bas, je vais la passer à Sarah avant qu'elle m'étripe pour te raconter la suite.
Ok. Voilà.
Merci. Alors, en fait, la suite, c'est qu'on est arrivé directement donc, devant la rivière et on est en train de commencer à préparer le bateau du rafting. Et là, on ne croise pas les Suisses qu'on avait vus. Et donc là, cri de joie, on se retrouve et tout. Et on leur explique qu'après nos verres de bienvenue, qu'on va faire du rafting. Et ils se marrent beaucoup parce qu'on dit que c'est la première fois qu'on va faire du rafting. C'est possible la première fois qu'on boit ça. Hein, petit tour. Hein. Et donc on parle et on rigole, ça nous a bien fait rire. Et nous voilà partis après sur dans la rivière avec notre cher Yubo. Yubo qui était du coup celui qui nous aidait pour tout ce qui était rafting, évidemment. Mm-hmm. On n'allait pas le faire tout seul. Et donc on a pu vachement parler avec lui et tout. On a fait donc l'eau était très très calme étant donné que là on est vraiment dans tout ce qui est automne. Donc le mieux normalement c'est vraiment en avril où là c'est vraiment beaucoup plus haut et beaucoup plus sportif. Nous c'était tranquille, c'était bien, c'était parfait pour une première.
Oui voilà.
Ouais c'est ça. Mais franchement c'était super beau. On est passé en dessous du pont donc qui fait par rapport au canyon. Et on a pu discuter sur la langue avec Yubo, on a pu vraiment prendre une photo d'ailleurs avec lui aussi, c'était vachement cool. Des animaux, de la nature, et il y a des moments où juste on ne parlait pas, c'était super intéressant de juste pouvoir regarder la nature, être tranquille, et aussi qu'il me propose de mettre à l'Oana. Bon, en fait, j'aurais peut-être dû dire oui maintenant. Mais bon, tant pis, hein, j'ai dit non parce que je me suis dit, ah, elle va attraper froid la pauvre. Hein. Ah mon dieu. En tout cas, voilà. On a fait un super rafting et après quand on est remonté avec le 4x4 Land Rover, c'était super cool. Et ça bouge dans tous les sens, hein,
oui,
mais
ça,
c'était
4x4.
Super cool quoi. Ah bah oui, bah surtout avec les routes, ça c'est sûr.
C'est ça.
Mais bon. Du coup, là je vais repasser la parole à papa, parce qu'il va pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé après pour le garage et cette réponse du coup, tant attendue.
Voilà. Monsieur Alors, Julien,
une fois que les activités sont faites, là en plus j'ai le garagiste qui m'envoie un message puisqu'on s'était échangé les numéros. Et pour me dire que, deux jours après, mon chauffage était réparé. Waouh, j'ai dit quand même c'est rapide. Mais comme c'était un samedi, j'ai dit on va pas partir un samedi et arriver au garage le dimanche, ça ne le fait pas, donc on y restait quelques temps de plus. Et c'est là qu'en discutant, je cherchais à un moment donné le propriétaire du camping. Et puis j'ai cherché, il était avec une tenue, style un tablier. Et puis dans la grange derrière, il était en train de dépioter au niveau viande, style trois animaux. Alors je ne sais pas trop ce que c'était, parce que c'était déjà bien entamé. J'aurais tendance à dire peut-être des moutons, ou des cochons, ou des choses comme ça. Mais en fait, dans ce restaurant, il fait sa viande, et puis il la sert directement à ses clients.
Voilà.
C'est direct.
Producteur-consommateur.
Et c'est pour ça que je dois avouer que sa viande est si bonne, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire.
Voilà, c'est ça.
Donc, cela étant, on quitte le camping, ça se passe super bien. Enfin, vraiment, parce qu'en plus, c'était un camping familial. Tout le monde se connaissait. C'est le propriétaire, donc, qui travaillait avec ses neveux, avec des amis. Enfin, on sentait vraiment l'ambiance familiale. Enfin, super. Donc, on fait la route du retour. On retourne au fameux garage du gars qui m'avait dépanné. Et là, dans son garage, donc évidemment, le temps de faire la route, le temps de quitter le camping, on arrive. Pas tard, il était à peine 5 heures. Bon, mais il faisait déjà nuit depuis une demi-heure.
Mais oui.
Alors évidemment, pour trouver le garage, heureusement que Google Maps nous a quand même pas mal aidé, parce que sinon, franchement, les routes, pareil, on a griffé partout avec le camping-car. C'est des routes faites pour des voitures, mais pas pour des camping-cars.
D'accord, il n'y a pas...
Il n'y a
pas deux sens de circulation.
Dans d'autres pays, oui, mais pas là-bas. Là-bas, tu roules, et puis si tu te croises, il y en a un qui essaie de se garer. Ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Mais les gens sont foncièrement gentils. Donc, on arrive, le gars, il est en train de dépioter un véhicule au niveau réparation. 20 minutes après, il est venu dans le camping-car, il m'a monté le matériel, donc il m'a dit qu'il avait fait passer un sous-traitant qui l'a travaillé, qui a tout nettoyé, qui l'a rejointé. Il a mis à 3 barres de pression, donc ce qui est largement suffisant. Il me l'a remonté et grosso modo, voilà, j'ai le chauffage qui marche, je n'ai plus de fuite.
T'as plus de fuite, oui.
Et bilan de l'opération, ça m'a coûté 120 euros. Voilà. Voilà tout ce que ça m'a coûté. Donc c'est pour ça, au Monténégro, il n'y a peut-être pas de garagiste spécial camping-car, mais en fait, il y a des garagistes excellents en tout.
Voilà, oui,
il touchait tout, le mec. Mmh. Il touchait tout, que ce soit BMW, Audi, Volkswagen... toutes les marques, et même un camping-car des utilitaires, il n'y a pas de problème, ils s'y collent.
Voilà.
Ils s'y collent, ils sont vraiment... Donc après, évidemment, le temps de faire les tests, puis il ne fallait pas que je parte comme ça. Le gars, le garagiste, il m'a dit si je voulais boire un coup, donc lui, il s'est pris un petit schnapps. Moi, il m'a offert une bière. Alors, une petite bière du pays, qui est vraiment très, très agréable, très douce. Moi, qui suis moyennement bière, là, elle passe très, très bien dans ces pays là-bas. Et donc, après avoir discuté avec lui de toutes ses activités, On l'a salué, on a pris congé, et là c'est Vanessa qui a repris la route, et donc je vais la repasser.
Ok.
Alors, me revoilà. Donc on a fait un bout de route, on s'est retrouvés dans un spot que parfois on est obligé d'avoir parce que il est tard et qu'on est fatigué.
Il faut s'arrêter, voilà.
C'est-à-dire le truc pas rêvé au bord de route, et là c'était pire, il y avait même le train, mais les vieux trains là-bas, ça fait très très bruyant. Enfin bref, on a été dormir comme on a pu, après on est reparti parce que c'est à côté du lac Skodar. Et après, je voulais aller voir vraiment, toujours influencé par toujours les réseaux, il y a des photos qui sont sympas. Et donc ce fameux lac avec une super vue, et nous voilà partis pour trouver cette fameuse vue. Fameuse vue où il faut emprunter évidemment une petite route encore une fois. Mais là, il y a eu quand même un problème de taille, c'est que face à nous, il y avait une ligne, je sais pas si c'est moyenne tension, enfin on va dire un câble électrique qui nous a barré un peu quand même. Alors il faut savoir que nous, on a un petit truc aussi qui peut servir, mais pas tout le monde n'y pense pas en camping-car. Comme on est assez haut et que parfois c'est difficile de voir la hauteur, j'ai pris un télémètre, c'est pour voir les hauteurs, on a mesuré. Eh bien, c'est bien pratique. Là, on a vu qu'on n'avait même pas 5 cm pour passer, donc on n'allait pas prendre le risque, donc on a fait demi-tour. Et j'ai dit, tant pis pour la vue, tant pis pour ça. Et voilà, bon, on a roulé, on s'est retrouvé au bord de la plage. Et là, aujourd'hui, on est encore dans des spots un peu abandonnés. Hein, c'est au bord de l'eau. Et on va dire qu'on aime vraiment ça. C'est donc un centre pour les militaires aussi, encore.
Ah oui, c'est très...
un centre de vacances abandonné.
D'accord.
Donc, on va pouvoir explorer ça, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on est là, donc on va pouvoir explorer et voir tout ça demain.
La visite de ça. D'accord, ok.
C'est ça, et ça, c'est assez fabuleux. Il y a toute une histoire derrière qu'on vous racontera parce que j'ai fait des petites recherches et c'est vraiment exceptionnel, le coin.
D'accord.
J'ai fait, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai essayé de pêcher, c'était une catastrophe, mais moi, j'ai jamais pêché de ma vie.
Mais j'ai vu quelques photos où il pleuvait pas mal. C'est là où vous êtes.
Ah oui. Oui, oui, il pleut beaucoup même là. On s'attend, on s'est décalé un petit peu là de notre coin, là où on était garé, parce que on s'attend à une méga tempête cette nuit, quoi.
Ah oui, d'accord, ok.
Ouais, mais là on n'a pas bougé. Il y a pas mal d'eau autour. Bon, ça, on est quand même sur un chemin calcaire. Il y a un peu de boue dessus, c'est tout. Mais normalement, on devrait pouvoir remonter.
On va remonter. Oh. Ok.
Voilà, mais après, Julien a pris la propulsion pour ce système-là.
De... Voilà. C'est ce qu'il avait dit la première émission.
C'était pour ça, oui, pour pouvoir se sortir de toutes ces situations. Après, on verra si peut-être qu'on vous racontera qu'il
oui.
faudra...
qu'il a dépanné. Voilà.
Chercher un tracteur, c'est possible.
Ou le garagiste.
C'est ça, au suspense. Hein. Voilà.
Bon, mais ok, mais oui. Et le temps, enfin, la température, vous êtes c'est quoi actuellement?
Alors, on est passé dans les montagnes où il faisait zéro.
Ah oui,
donc
oui.
Beaucoup plus froid, hein, là tu sens. Donc nous on installe des tapis au sol du camping-car pour isoler, hein, pour le sol, hein, parce que ça s'appelle. Et là, on est à la nuit à 12-13 degrés, un peu comme chez nous.
Oui,
hein,
nous.
Voilà, et 15 degrés. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est beaucoup plus doux pour nous. D'ailleurs, on trouve qu'il fait chaud même. Quand on est habitué à la montagne pendant quelques jours, ça change énormément.
D'accord.
C'est pour ça, non.
Bon,
donc là, c'est un peu c'est vrai qu'on a beaucoup de pluie, notamment quand je sur la route, c'était Enfin, j'avais peur de l'aquaplaning tellement ça dévalait, quoi. C'était énorme.
Bon, eh bien.
Voilà un peu les péripéties.
des 15 jours, voilà. Bon, mais maintenant, bon, on sait que par Messenger, ça fonctionne. Il n'y a pas de coupure et tout. Donc, je pense qu'on va, prendre l'habitude là-dessus.
Bah, ça sera parfait, oui.
Voilà. Bon, c'est le mot de la fin.
Ok, ben oui. Ben voilà, après, qu'est-ce qu'on peut conclure pour l'instant sur Monténégro? Nous, on était surpris au début, on sentait comme une froideur quand on est arrivé. C'est vraiment, ça change. Les gens, on les sentait vraiment pas bien. Et finalement, ben, quand on casse un peu la glace, on discute avec eux, mais ils sont d'une gentillesse et ils sont hyper serviables, quoi.
Voilà,
ils sont toujours prêts à aider. C'est impressionnant.
Ils n'ont peut-être pas trop l'habitude du tourisme aussi, quand même. Il y a du...
Ah si, là où on était dans ce camping là dans les montagnes, comment ça s'appelle, c'est une affaire familiale, ça fait une des plus vieilles pour le rafting, donc ça marche bien, c'est un coin quand même touristique. Et non, là ils sont vraiment habitués pour ce coin-là. Mais c'est pareil, l'après-midi, ils venaient nous amener des assiettes pour le goûter, ça a été un peu de charcuterie qu'ils font eux-mêmes. Le deuxième fois, c'était petit gâteau. C'est vachement sympa, quoi.
Oui, voilà.
On n'a rien demandé et ils arrivent comme ça, ils toquent, ils tenaient, quoi.
D'accord, ok. Bah, c'est hyper cool.
Ouais, ça, voilà, la gentillesse. Ce qui change aussi, c'est par contre, quand on a un animal ici, quand on fait les courses dans les supermarchés qu'il y a, il n'y a rien pour les animaux. Mais rien. La condition pour les animaux n'est pas du tout la même que les Italiens qui sont, on va dire, in love de Charlie. Ça change du tout au tout ici. Ici, il faut savoir qu'il y a énormément de chats et de chiens errants. Mais quand on dit énormément, il y en a partout, quoi. Il y en a partout, et même la nuit, il faut faire attention. On voit un peu de chair écrasée, quoi. Les chiens sont, voilà, il y a beaucoup de chiens qui sont morts, quoi.
D'accord.
Et donc pour Charlie, il a fallu aller chercher sa nourriture dans une sorte d'animalerie, les pet shops, quoi. Et là, bon, l'avantage, c'est qu'on peut prendre des croquettes au poids. On essaie.
D'accord.
Bon, donc ça change du tout ce qu'il y a. C'est particulier, quoi.
Ouais. C'est bien à connaître.
Oui, c'est ça. Mais si on veut partir dans ce pays pour son animal, soit on a les voyageurs qu'on a rencontrés, ils avaient un chien aussi et leur chien est malade. Ils ont pris quand même dans leur 4x4 150 kilos de croquettes pour leur voyage.
Ah oui, ils ont anticipé.
Voilà, moi je ne me voyais pas faire ça, mais on n'avait plus de place là. On est envahi de croquettes.
Ok, d'accord. Donc mais c'est bien à savoir. Si les gens veulent partir là-bas, qu'il faut prévoir pour les animaux.
Pour les animaux, donc il ne faut pas s'attendre à trouver tout, sauf peut-être dans des grands centres, peut-être près de la capitale, mais dans les supermarchés, dans le centre, il ne faut pas s'attendre, il n'y a rien pour les animaux. Quoi. C'est vraiment des animaux. Après, ça, c'est pas mal aussi, ça fait travailler des commerces. Hein. Ils ont des commerces particuliers pour les animaux.
Oui, pour les animaux. Ouais. Okay. Ouais.
Et c'est bien aussi.
Qu'est-ce que je voulais dire? La monnaie, là, à Monténégro, c'est quoi?
La monnaie, on est reparti pour le Monténégro, on est en euros.
En euros, d'accord. Okay.
C'est en euros. Du coup, là, pour le gasoil, on est à 1,64. Bon, c'est à peu près pareil, je crois, que chez nous aussi.
Ouais, ça a bougé. Ça fait que bouger, non, mais bon.
Voilà, ça. Et la différence, c'est les légumes. Ah oui, on a pu aussi découvrir des gens, des légumes oubliés. Moi, je ne connaissais pas le chou rave. Le chou rave, je n'en avais jamais mangé. Donc, on essaie plein de choses ici. Et les légumes, donc, sont au poids. Tout est au poids, c'est pas à la pièce. Par exemple, il y a des concombres, c'est pas à la pièce. C'est 80 centimes, mais le kilo.
Le kilo, d'accord. Ah oui.
Oui, le kilo.
Oui, c'est pas pareil, quoi.
Non. Alors, du coup, on se fait une cure de concombres, parce que cet été, c'était trop cher chez nous.
D'accord. Ok. Bon. Eh bien, très bien.
Voilà, et pareil, une moyenne de resto à 4, il faut compter 45 euros, quoi, avec les plats et les boissons, quoi.
Oui, c'est plus compliqué chez nous.
Voilà, c'est plus... Après, comme les plats, c'est quand même très copieux, c'est rare qu'on prenne un dessert. C'est juste un plat, quoi.
Un plat.
Ouais.
D'accord.
Oui, mais voilà, et c'est vraiment pour les viandes d'arrêt. Le Monténégro, les gens, ils mangent beaucoup de viande.
Ouais.
Ça, il n'y a pas de problème.
Julien est à son aise, alors.
C'est ça, ça et le poisson, parce que pareil, quand on commande un poisson, par exemple une truite, c'est pas une truite, hein, c'en est deux, hein, dans l'assiette.
D'accord, mais dis donc.
Oui. Donc ça, c'est particulier.
Ok.
Voilà, trouve-moi un petit peu ce qu'on peut dire de tout ça pour l'instant, quoi.
Très très bien, et eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée au bord de... Vous êtes à bord d'un lac, c'est ça? Ou,
au bord du lot, au bord de l'Adriatique.
Voilà, de l'Adriatique. Ouais. Accrochez bien le camping-car, s'il y a trop de vent.
C'est ça, ça va souffler cette nuit, ça va souffler.
Voilà, mais ça endort le vent.
Oui, oui, on va dire ça. On s'est mis loin des arbres.
Oui, vaut mieux. Oui. Bon, mais écoutez, à mercredi prochain.
À mercredi. Allez.
Bye bye à toute la famille.
Allez. Bye bye.
Et puis voilà, on a quitté nos exploristes pour cette émission en direct depuis les studios de RCL. Je vous donne rendez-vous dimanche, émission exceptionnelle avec dans une heure un artiste avec Christophe Aigretot qui va venir dans le studio en direct et on va parler musique, chansons et puis plein de surprises. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très très bientôt. I wanna rock some more. I'm the latest combination, this part of the nation. To rock the show, this ain't my destination. Dr. B, rock the house, yes, yes, I will rock the house.